Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome de Cushing et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Nienke Birmaz. Professeur Birmaz, bonjour.
Bonjour.
Professeur Birmaz, vous êtes professeur des universités à la faculté de Leiden aux Pays-Bas et endocrinologue interniste au centre médical universitaire de Leiden. Vous vous intéressez tout particulièrement à l'endocrinologie et vous êtes très impliqué dans la prise en charge des tumeurs endocrines, notamment touchant l'hypophyse. Alors, professeur Birmaz, nous abordons aujourd'hui la relation médecin-patient dans le syndrome de Cushing et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Concernant votre approche dans la prise en charge des patients atteints du syndrome de Cushing, hormis les données biologiques et cliniques, quelle est l'importance des attentes du patient ?
Merci pour votre question. Je suis très heureuse de partager mes réflexions sur ce sujet basé sur la prise en charge de patients présentant un syndrome de Cushing que nous voyons lors de leur parcours périopératoire. Les attentes des patients sont très importantes et lorsque nous parlons avec eux des données relatives à la chirurgie, nous commençons bien sûr par les résultats attendus et la dépendance à la cortisone. Mais ce qui compte vraiment pour les patients, c'est comment ils se sentent, quelle est et quelle sera leur qualité de vie, quels sont leurs symptômes, est-ce qu'ils pourront retourner travailler, quand sera-t-il à la maison, quel est le fardeau de la maladie et quels sont leurs besoins. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus intéressés par ces données disponibles sur les patients afin d'évaluer les normes de soins actuelles à la lumière des attentes et des inquiétudes des patients combinées aux données cliniques dont nous disposons sur la rémission ou les complications du syndrome de Cushing.
Et dans votre pratique quotidienne, comment l'équipe soignante intègre-t-elle les besoins et les attentes des patients ?
C'est une question complexe. Lorsqu'il s'agit de données biologiques, il faut s'assurer que la mesure est effectuée dans le bon laboratoire, dans les bonnes conditions, avec les manipulations correctes et les bonnes données de référence. En ce qui concerne les besoins et les attentes des patients, nous ne savons pas encore ce qui correspond à la norme. Nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution et il est bon de réaliser que nous ne disposons pas de données de référence pour les scores de qualité de vie. Dans notre pratique, au début du traitement, puis 6 semaines et 6 mois après l'opération, les patients remplissent des questionnaires sur leurs limites, leur qualité de vie, leurs besoins, leurs attentes par rapport à leur maladie, et nous évaluons ces données à la lumière de la prise en charge médicale avec une infirmière. Nous sommes attentifs aux besoins des patients et essayons d'y répondre pour les soutenir par l'intermédiaire de soins psychologiques, de kinésithérapie, d'examens médicaux spécifiques ou de soins infirmiers. Sur la base des données et des résultats rapportés par les patients, nous essayons de répondre à leurs besoins en matière de soins cliniques. Mais ça reste difficile parce que vous avez besoin d'avoir accès à ces données et aux dossiers des patients et tous les systèmes informatiques de l'hôpital ne sont pas encore capables de vous les fournir. Il est donc très important que ces mesures soient créées, deviennent nécessaires pour pouvoir les intégrer dans la prise en charge. En plus de l'évaluation de chaque patient, nous suivons également les résultats de notre projet de soins en évaluant les données rapportées par les patients tous les 6 à 12 mois. Nous avons ainsi une idée de l'évolution du parcours de soins.
Et quels sont, selon vous, les sujets les plus importants à discuter avec les patients concernant la maladie et sa prise en charge ?
Pour répondre à cette question, je pense qu'il est intéressant de partir d'une idée déjà existante. Par exemple, le modèle 3DM développé selon une approche sur la valorisation des programmes de soins. Il y a 3 niveaux. Dans la première étape, on trouve bien sûr des choses comme la rémission et la mortalité. Et puis, il y a un second niveau qui est important pour évaluer le temps de récupération post-opératoire. Et enfin, le 3e niveau est conçu pour examiner les résultats sur le long terme. Il est important d'avoir une vision globale de toutes ces données et d'examiner le groupe de patients que vous prenez en charge. Pour le syndrome de Cushing, par exemple, c'est examiner les éléments et aborder les sujets qui sont intéressants pour les patients. Nous avons donc décidé d'analyser, tout d'abord, la rémission et la persistance de la maladie, d'avoir une idée du volume tumoral, des complications pendant le traitement et, par exemple, de la perte de fonction hypophysaire. Par la suite, nous nous intéressons au temps nécessaire pour reprendre le travail, aux limites et aux besoins des patients, à leur qualité de vie et, enfin, aux symptômes liés au traitement, comme les symptômes nasaux à la suite d'une chirurgie endoscopique ou les symptômes visuels lors de la présence d'une grosse tumeur, ce qui reste exceptionnel dans le syndrome de Cushing. Si nous considérons le bien-être dans la qualité de vie, il est également important de réaliser qu'il est basé sur de nombreux facteurs, la maladie, la constitution des patients, leur caractère, la structure sociale et familiale, avoir un partenaire ou pas, être jeune ou plus âgé, la capacité d'adaptation propre à chacun. Et donc, tous ces éléments doivent être pris en compte lorsque vous voulez interpréter les scores de qualité de vie.
Et pour terminer, professeur Birmaz, puisque nous arrivons à la fin de notre entretien, comment est-ce que vous parvenez à responsabiliser ou à faire gagner en autonomie les patients dans la pratique clinique ?
Nous avons réfléchi au fait que nous devions d'abord établir avec eux le fait qu'il existe vraiment une altération de la qualité de vie après un traitement pour une atteinte hypophysaire. Ensuite, en plus des soins médicaux, nous voulons fournir aux patients des stratégies d'autogestion. C'est le point que nous avons développé avec un psychologue et un médecin, avec des soins ciblés pour les patients atteints de pathologies hypophysaires. À l'origine, ce programme a été développé pour une autre pathologie et nous l'avons adapté en réalisant 8 sessions au total d'1h30 chaque semaine, couvrant des sujets importants pour aider les patients à s'autogérer. Par exemple, la réduction du stress, la gestion de la fatigue, leur permettre d'échanger ensemble sur leur anxiété, leurs inquiétudes et leurs expériences pour qu'ils trouvent des solutions ensemble. Ces séances sont bien sûr accompagnées par un des soignants du service. De notre point de vue, il est très important que les patients connaissent les conditions et les conséquences de leur maladie dans le monde réel.
Eh bien, merci infiniment, professeur Birmaz, de nous avoir éclairé sur le syndrome de Cushing. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.